الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد donc bonjour à la deuxième session, deuxième cours. On va continuer à parler un peu du symbolisme. Donc la dernière fois, on avait parlé des quatre principes de compréhension, les quatre niveaux. Alors maintenant la question, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Vous comprenez bien que on va rentrer à fur et à mesure dans les détails en abordant des choses concrètes pour les comprendre. La deuxième question, maintenant qu'on sait qu'il y a à peu près quatre niveaux de compréhension, maintenant la question, est-ce que ces niveaux sont obligatoires ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Ça veut dire, est-ce que à un certain niveau, on est à un certain niveau de compréhension et donc on ne peut pas être en dessous, ou on est à un certain niveau et on ne peut plus monter au-dessus? C'est-à-dire, comment on peut se situer par rapport à un élément? Et ça, on peut le comprendre. C'est-à-dire que, prenons par exemple le premier niveau qui est le niveau enfantin. Alors, est-ce que le niveau enfantin, il est réservé seulement aux enfants ou pas? Est-ce qu'on peut être à un certain âge, par exemple à 40-50 ans, être au niveau de la compréhension d'un enfant? Oui. Pour quelle raison?
Ou bien des
mongoliens, et tout ça, non, mais on enlève les handicapés, parce que quand on parle des handicapés, ils n'ont qu'une surcharge de compréhension, ils n'ont pas l'obligation de comprendre. D'accord? Toujours dans les compréhensions, il faut enlever ce qui est handicapant. Pourquoi ce qui est handicapant? Parce qu'on ne peut pas obliger un individu à quelque chose qu'il ne peut pas supporter, et d'autant plus qu'un handicap, s'il n'est pas provisoire, si c'est un handicap provisoire, par exemple quelqu'un qui a bu, provisoire, ou qui est sous l'effet de la drogue ou d'un médicament, il a une incompréhension momentanée. C'est que maintenant, il a été démontré clairement par la médecine que les personnes qui prennent des tranquillisants en continu ont réduit leur capacité compréhensive de présence, en fait, mentale, de presque 40%, voire 60%. Ils sont endormis, ils n'ont pas de réaction. Le corps, l'esprit a du mal à réagir à cause de tous les tranquillisants qu'ils prennent. Et comme c'est devenu on est un des premiers pays qui en consommation de tranquillisants, et on est 10 fois plus élevé que la moyenne. C'est-à-dire, on n'est pas un peu, c'est 10 fois plus élevé que la moyenne européenne quand même, hein. C'est incroyable, hein. Donc, on ne parle pas de ce cas-là, hein. Sauf bien sûr que dans le cas où c'est provisoire. Quand c'est provisoire, évidemment, il rentre dans le cas parce que est-ce que l'individu a choisi de consommer délibérément les médicaments ou il ne l'a pas choisi? Bon, quand la volonté rentre dedans, ça. Non, mais en règle générale, d'après vous, est-ce qu'on peut être, par exemple, à 40 ans sans avoir une maladie ou sans être sous l'effet de drogue, être au niveau le plus bas?
D'une manière volontaire. Intellectuel.
Voilà, par exemple. Intellectuellement. C'est-à-dire que faut comprendre qu'on parle de compréhension. Et ça veut dire que quand on parle de compréhension, ça veut dire qu'il faut des éléments de la compréhension. Et un des premiers des éléments de la compréhension, c'est le langage, la langue. C'est-à-dire que quelqu'un vous explique quelque chose, vous ne comprenez pas les mots qu'il dit, vous ne pouvez pas suivre. Ça n'a rien à voir avec votre capacité mentale ou pas mentale. Vous ne pouvez pas comprendre parce que la langue qu'il utilise, quand c'est des langues, vous savez, quand c'est un médecin, vous ne comprenez pas. Quand on parle technique, quand quelqu'un parle technique, quand on utilise des mots trop sophistiqués, religion ou psychologie ou mécanique auto, pour moi, on n'y comprend plus. Des fois, on comprend même les mots, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Le sens général de la phrase, on n'arrive pas. Donc, le niveau le plus bas, le niveau enfantin, n'est pas forcément un niveau qui est réservé aux enfants. On peut être tous amenés à un moment ou à un autre à avoir ce niveau-là dans une conversation avec quelqu'un. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce qu'il est important que si vous voulez transmettre un message à quelqu'un, il faut le situer au niveau de la compréhension. si vous parlez de religion à un enfant, c'est pas la même chose quand vous parlez à un non-musulman qu'à un musulman non-pratiquant, qu'à un musulman pratiquant. Ils ont des niveaux de compréhension très différents. D'accord ? Et même à l'intérieur du sujet lui-même, il faut savoir positionner votre langage pour être compris. Mais aussi, ça c'est quand vous vous adressez aux gens, mais quand vous allez assister à des cours, des conférences, un truc comme ça, c'est de prendre un cours, une conférence qui est au niveau de votre compréhension. Ça sert à rien d'aller dans une conférence, enfin, je ne veux pas dire que ça sert à rien, mais des fois on va dans des conférences, les gens ils parlent, on n'a rien compris du tout. On sort, on se demande de quoi ils avaient parlé. Ou alors c'est des trucs trop simplistes qui vous avancent pas beaucoup. Donc il faut, vous voyez, il faut jongler avec tous les niveaux, parce que les niveaux vont fluctuer selon, un, on a dit intellectuellement, c'est-à-dire le langage est souvent un des éléments qui barre le plus la compréhension. On ne fait pas suffisamment attention aux termes qu'on utilise pour faire comprendre les gens, transmettre aux gens ce qu'on est en train de leur dire. Donc, ça veut dire que d'un côté, il faut que vous vous mettiez au niveau de ceux à qui vous voulez communiquer, mais aussi que vous-même, vous ayez une démarche personnelle pour augmenter votre connaissance du vocabulaire et de la langue. D'accord ? Pour vous enrichir. Et en l'occurrence, si vous êtes musulman, aussi bien que quand vous êtes chrétien, lire dans le texte, c'est-à-dire en arabe ou en araméen ou en grec, le texte n'a rien à voir avec une traduction. Le Coran traduit en français n'a rien à voir avec la traduction de le Coran en arabe. Donc, commencer à approcher la langue dans son origine va ouvrir une grande perspective, une grande compréhension. Actuellement, il y a toute une réécriture dans toutes les religions, d'ailleurs. Je viens de recevoir une Bible qui a été approuvée par le rabbinat de France, qui est tout à fait différente de la Bible de Jérusalem. Parce qu'on utilise plus le texte d'origine hébreu et pas araméen ou grec. Donc on arrive à des ouvertures, à des lectures qui sont plus larges, qui correspondent plus à une situation nouvelle qu'en arabe, c'est pareil aussi. On a un mot qui a 5, 6, 7, 8 sens différents. Et jusqu'à maintenant, ou jusqu'à un temps, un truc, on s'est contenté d'un sens parce qu'il correspondait à la situation commune des gens qui lisaient le Coran. Mais maintenant, on est dans des situations différentes. On est des minorités dans des pays chrétiens. On peut être minoritaire dans, musulman, minoritaire dans un pays musulman. Alors vous voyez que c'est particulier. Parce que la pratique de la religion s'est estompée dans certains pays, et on peut être musulman pratiquant dans un pays musulman et être quand même minoritaire. Je ne parle pas de quelqu'un qui est sectaire. Je ne parle pas d'un chiite qui est dans un pays sunnite ou un sunnite. Non, pas du tout. D'être un pratiquant simple sans tenir compte de l'école, mais être minoritaire dans son pays parce que la majorité ne pratique pas du tout et ne s'intéresse pas à la religion. On retrouve ça dans tous les pays. Donc on a des situations et des lectures qui maintenant nous permettent, par exemple, d'avoir des réflexions. Le but est toujours d'avoir une réflexion. On cherche toujours à ce que nous-mêmes, nous nous enrichissons par notre connaissance pour pouvoir nous élever nous-mêmes et espérer que par tâche d'huile, par contact avec les gens, le niveau général s'élève. Mon principe à moi, c'est que on ne peut pas changer les gens. Les prophètes n'ont pas réussi. Ne vous imposez pas à vous ce que les prophètes n'ont jamais réussi à faire eux-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a converti même pas une soixantaine de personnes pendant 10 ans à la Mecque. Même pas une soixantaine de personnes. Alors vous imaginez, le Christ, il a eu combien, une douzaine au moins de disciples qu'on est à peu près sûr. Combien ils ont suivi en plus, peut-être une poignée, deux poignées. Vous voyez, c'est le Moïse, on a écrémé, j'utilise toujours le mot écrémé, garbala en arabe, toute la nation, on estime qu'ils étaient 10 000 au départ d'Égypte, et ceux qui sont restés avec eux, avec lui, étaient une centaine ou 200. C'est parce que tous les autres n'ont pas voulu suivre, n'ont pas voulu comprendre. Mais là, c'est Dieu qui a imposé, il les a exterminés. Donc, vous voyez, donc, je pense que le niveau ne s'élève que par contact avec les individus. Vous savez très bien que si vous faites quelque chose à la maison, vos enfants vont vous suivre. Dans tout ce que vous faites, que ce soit bien ou mal, si vous fumez, vos enfants fumeront. Après, ils peuvent arrêter, mais c'est pareil pour faire la prière. Si vous faites la prière, vos enfants feront la prière avec vous. Donc, le niveau de compréhension est très important un, que vous compreniez à quel niveau se situe l'autre du point de vue du langage. Deux, que vous utilisez le bon langage pour communiquer avec les autres, mais que aussi vous-même vous vous enrichissiez par la langue. Alors, quel peut être le deuxième facteur où le niveau ne dépend pas du tout de l'âge ou de l'avancée du truc, si c'est autre que facteur intellectuel? Vous en voyez un autre? Voilà. Ça, c'est très important. Les coutumes et les us du pays dans lequel et de la société dans laquelle elle est. Dans certains cas, c'est l'handicapant majeur de communiquer avec les autres et de comprendre même. Vous parlez avec les gens et tu dis, mais c'est nos coutumes. Comme si c'était, c'est dans le texte, c'est écrit, c'est comme ça que ça doit être. La religion, en règle générale, adopte les us et les coutumes, il les change. Il les modifie, il les rend il leur donne une teinte religieuse. On sait très bien maintenant qu'ils sont convaincus que le 24 décembre n'a jamais été la naissance du Christ. Le Christ est né au printemps. Donc on sait qu'il est né au printemps, mais on a adopté le 24 décembre parce que c'était une fête païenne de célébration du soleil. Donc on élève un culte au soleil pour le remplacer à un culte au Christ. Chez nous, pareil, on a adopté beaucoup de coutumes qui étaient des coutumes hantées à islamique, c'est-à-dire avant l'islam, pour leur donner une teinte islamique. Mais les coutumes et la manière de se comporter, si elles sont un handicap à la compréhension de la religion et au fait de progresser, il faut les combattre. Il faut les combattre en soi, mais il faut les combattre chez les autres pour dire aux gens, attention. Si c'est ça va vous freiner, vous empêcher. Par exemple, la dernière fois, je discutais avec une personne qui me disait, nous, au Maroc, on ne donne pas d'héritage à la femme. Je dis, mais c'est interdit. C'est contre l'islam. Il dit, oui, mais il faut que tu comprennes, Cheikh, c'est notre coutume. Je dis, mais je peux pas la comprendre. Je ne peux pas accepter cette coutume-là. Je dis, que ce soit une coutume, vous devez la combattre. Pourquoi? Parce qu'elle prive un être humain d'un droit. Si c'est son droit, l'islam, tous les musulmans, les gens du pays, devraient combattre cette même si c'est une habitude, si c'est une coutume locale. D'accord? Donc il faut absolument se rendre compte que quand la coutume va à l'encontre ou va trop loin, en donnant trop de liberté ou donnant trop de choses, il faut arriver à faire la part des choses et à limiter. Donc on a le langage, mais souvent le langage et les us et coutumes sont liés. Si vous étudiez les langues typiques du pays, les dialectes et tout, on s'aperçoit souvent que plus la langue est éloignée de l'arabe et des trucs, plus les us et coutumes sont un peu libérés ou des trucs comme ça. Donc souvent moi j'ai remarqué qu'il y a une corrélation entre ça. Donc les us et coutumes, je ne dis pas que les us et coutumes sont condamnables. Je ne le dis pas du tout. Elles sont une base structurelle dans la société. Mais toute société doit avoir tendance à s'élever vers le haut et non pas à stagner ou à être tirée vers le bas. Donc l'être humain, tous les êtres humains sont égaux. C'est un principe qu'aucune religion ne conteste. Après, dans la terminologie, on trouve des trucs. Mais quand on dit, mais toutes les religions sont d'accord, tous les êtres humains sont égaux, qui dit être humain, ça veut dire homme et femme. Ça veut dire que l'homme est aussi l'égal de la femme et la femme est l'égal de l'homme. Il n'y a pas de différence dans le truc. S'ils ont des charges, souvent religieuses, qui sont un peu différentes, ça ne veut pas dire que c'est une différence. On a un terme qui est mal compris en arabe, par exemple, c'est l'afzaliyya, le fadl. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Nous avons élevé les uns au-dessus des autres, nous avons préféré les uns aux autres. Ce terme afzali, c'est de la préférence, on a dans l'islam, est très mal compris. Est très très mal compris, et généralement quand il est utilisé, c'est contre quelqu'un. Ça n'est pas un justificatif. Quand je dis je préfère les pommes, ça ne veut pas dire que je ne mange pas d'orange. C'est que moi j'ai une inclinaison vers les pommes. Est-ce que ça veut dire que de cela on dit ah mais les pommes sont meilleures puisqu'ils mangent les pommes? Non, ça n'a pas du tout ça. La préférence n'est pas un justificatif. Il faut faire attention. Et ça, on le retrouve dans toutes les religions et dans toutes les trucs. Quand on commence à parler de préférence, les gens, ils voient toujours un niveau d'escalier. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et donc forcément, le premier est meilleur. Non, ça n'a rien à voir. C'est une classification due à un concept particulier. C'est par exemple, on dit, qu'est-ce que tu préfères en fruits? Je vais dire, les pommes, après les bananes, après les pamplemousses, après tout. Est-ce que ça veut dire que je considère que les pommes sont meilleures que tous les autres fruits? Non, c'est une classification personnelle, temporaire. Vous viendrez dans un an, je vous dirai, c'est les bananes ou un autre fruit que j'ai jamais mangé. Donc, la préférence, c'est un terme qu'il faut toujours faire très attention dans l'utilisation et dans la compréhension surtout. Donc, il est souvent utilisé et il faut faire très attention à son utilisation. Qu'est-ce qu'il peut être encore comme facteur, d'après vous, qui fait qu'on a des niveaux qui sont très différents dans la compréhension?
La culture d'un lieu.
Je la rentre dans les us et coutumes, parce que généralement les us et coutumes d'un endroit, il y a une culture qui va avec, qui rentre dans les us et coutumes. Voilà. Généralement ça, c'est le milieu, on peut le dire, c'est le milieu social et culturel. Mais social, culturel, économique sont tellement imbriqués qu'on, moi j'aime pas trop les détailler, parce que on rentre dans des petits détails qui ne sont pas importants pour tout le monde. On peut après essayer de comprendre, par exemple, certains éléments par rapport aux us et coutumes, qu'elles soient raisons économiques, sociales ou... par exemple, on rentrera dans ce détail-là très précisément, et je ferai la distinction, par exemple, dans les aumônes du jour de l'Aïd. On sait que maintenant en France, on est parti sur les 5 euros qu'on donne par personne. Les autres, il y a des gens qui tiennent, non, il faut le sortir en riz ou en blé, en tout comme ça. Sortir 5 euros, 2 kilos de blé ici en France, si vous donnez à un pauvre 2 kilos de blé, il ne sait pas ce qu'il pourra faire, il va regarder, il n'a pas l'habitude de manger de blé. Vous lui donnez de la farine, il dit oui, mais bon, pour faire un gâteau, il me faut aussi des œufs, il me faut tout ça, moi je ne les ai pas, je voulais que je fasse avec la farine. Vous voyez qu'on est, on a un principe qui, si on le détaille, on rentre dans les, on voit que la raison globale qui est sociale, économique et culturel du coin, dans une application d'un domaine bien précis, va dépendre de cet endroit-là. Je me rappelle quand j'étais une fois au Yémen et quelqu'un m'avait posé la question juridique, savoir comment il faisait, si c'était ce qu'il faisait était bon. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient dans un village où tout le monde avait le même niveau économique. Ils étaient tous des agriculteurs, les proportions de terre, à part deux ou trois personnes qui étaient riches, plus que les autres avaient les trucs. Et donc les gens, pour sortir la zakat de le fait, ils avaient du problème. Bon, ils savaient que c'était 2 kilos de riz. Alors, ils attendaient qu'il y en ait un qui achète 2 kilos de riz. Alors, il me donne 2 kilos, je donne au voisin, qu'il donne au voisin, qu'il donne au voisin, il revient au gars du premier. En fait, tout le monde a sorti ses 2 kilos de riz. Parce que on le donne toujours au voisin, comme il faut le sortir, chacun le sort, et ben ça finit. Et puis, dans un autre endroit où le pauvre du coin, qu'il y avait toujours dans un autre village, tu vois, il y avait un gars qui était pauvre. Le gars se retrouvait à plus que 400 kilos de riz, il ne savait pas quoi en faire, il cherchait après des commerçants pour leur vendre le riz qu'on lui a donné. Parce qu'il ne savait pas quoi faire avec 400 kilos de riz, en une journée, on lui a donné 400 kilos de riz. Donc, vous voyez que on arrive des... Bon, j'ai choisi spécifiquement ces choses un peu ridicules, parce que des fois, on a, les gens n'ont pas la réflexion de dire, mais attendez, bon, ça se produit une année parce qu'il y a une coïncidence, mais si ça se reproduit tous les ans, il faut peut-être se dire, attendez, on avait l'habitude de faire ceci, mais il faudrait peut-être voir quel est le, si on ne peut pas faire autrement et que les gens profitent un peu plus de ce jour, justement. Donc ça, c'est une chose. Non, mais un autre élément. Un autre élément qui peut intervenir dans l'incompréhension. La structure. La structure de ce que vous dites. Si vous ne structurez pas correctement ce que vous dites, personne ne vous comprend. C'est là, je mets entre guillemets, si vous êtes vous brouillon, comment voulez-vous que les autres puissent comprendre ce que vous dites? Mais être brouillon, ça ne veut pas dire être... Brouillon. On peut dire une chose très intelligente, ne pas trouver la structure et le raisonnement compréhensible par les autres. Et là, on parle de raisonnement, on ne parle plus de la compréhension linguistique pour que communiquer aux gens. Quand vous dites quelque chose, vous établissez un plan. Vous avez un plan que vous utilisez à fur et à mesure pour parler aux gens. Si vous êtes trop brouillon, vous sautez du coq à l'âne, les gens n'arrivent plus à vous suivre. Et comme ils n'arrivent plus à vous suivre, ils ne vous comprennent plus. Et le but que vous voulez faire passer, ils ne le comprennent pas. Donc, quand vous adressez aux gens ou quand vous essayez de comprendre quelqu'un, il faut essayer de voir le plan qu'il a en tête, lui. Il vous dit des choses, comme ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous voyez clairement son plan ou vous ne le voyez pas? Si vous ne voyez pas son plan, vous l'arrêtez tout de suite. Vous lui dites, c'est pas clair. À quoi tu veux venir ou dis-nous ce que tu veux. Et si vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous établissez votre plan, ou par écrit ou mentalement avant. D'accord? Il est très important ce point-là. Mais en fait, sous ce plan-là, il rentre il y a des centaines de trucs. C'est-à-dire, quand on a un plan, ça veut dire qu'on a un objectif final. Donc, vous exprimez votre objectif d'abord. À travers un plan, vous cherchez une finalité. Si votre plan, il n'amène à rien à la fin, c'est pas la peine. Donc, vous voyez qu'il y a un objectif. Et l'objectif, quel est l'objectif que vous cherchez? Est-ce que c'est une compréhension seulement mentale ou c'est une compréhension d'action? Et donc, on n'a pas le même comportement quand on veut amener quelqu'un à faire quelque chose que seulement à la comprendre. Il y a des livres à écrire juste sur le fait de la compréhension structurelle de ce qu'on est en train de dire. On rentrera petit à petit dans les détails quand on va aborder des sujets bien concrets. Pour l'instant, je reste sur des formes un peu générales pour que vous compreniez, parce qu'on ne s'arrête pas souvent, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour comprendre ce qu'on dit et pour voir le schéma de ce qu'on dit. Donc c'est à peu près ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc nous reviendrons petit à petit. Donc on a vu les quêtes compréhension, on a vu les quêtes handicap majeures, il y en a d'autres, hein. On en a vu quatre là aujourd'hui, c'est ça?
J'en ai trois.
Ah, il y a quelqu'un qui est en retard. Il y a quatre, on a dit le premier, c'est la compréhension du langage. La deuxième, culturelle, des us et coutumes. La troisième, non, entre les deux, on en a parlé d'une autre. La compréhension du cheminement de ce qu'on est en train de dire. Quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, que vous ayez une trame, une chaîne, pas un plan. Le plan vient après, le plan est autre chose, mais une trame dans ce que vous êtes en train de dire, une trame. C'est-à-dire que si je vous dis une phrase, il y a un verbe, un sujet, un complément, mais qui n'ont pas de relation les uns avec les autres, vous ne comprenez pas la trame. La trame est importante dans le cheminement.
Une différence dans qui est intellectuel, alors, au niveau
intellectuel? Non. La trame de la compréhension fait partie du langage spécifique que vous utilisez. Ça l'est spécifiquement à la langue. Votre trame de suivi ne sera pas la même en français que si vous parlez en arabe, que si vous parlez en corse ou en alsacien. Ou en chinois, en japonais, les trames de construction des phrases ne sont pas les mêmes. D'accord ? La trame de la construction.
La grammaire.
Voilà. Oui, la grammaire, oui. Mais, voilà, la syntaxe, l'utilisation des mots dans les phrases. Vous savez, l'utilisation des mots dans des phrases ou les ponctuations. Ça, c'est très important dans la manière dont vous utilisez. Par exemple, vous savez que dans certains pays, quand on parle avec les mains, c'est un très mauvais signe. Et dans certains pays, au Japon, en Chine, quand on parle avec les mains, c'est un très mauvais signe. Et en Italie, si on ne parle pas avec les mains, on n'est pas italien. D'accord ? Donc il est très important, ça c'est une structure, c'est ce qu'on appelle la trame de la communication, c'est-à-dire il faut avoir une trame plus simple. On dit toujours que plus vous voulez toucher une personne, en français je parle, après on verra dans les autres langues, plus vous essayez de toucher une personne, plus il faut faire des phrases simples, verbe, sujet, complément. Et plus vous voulez parler des enfants, plus, à la limite, le complément, est-ce qu'il est vraiment nécessaire dans ce que je donne ? Parce que, est-ce que lui a la capacité, un enfant, de comprendre ce que le complément vient faire là-dedans ? Si je lui dis « mange », est-ce que c'est pas suffisant que de lui dire « mange ta soupe ?» Parce que la soupe viendra peut-être perturber sa compréhension de la phrase. Ou alors, je vais m'intéresser que, ça c'est en rentre dans le truc de sociologie et d'éducation de l'enfant. Mais souvent, maintenant, les sociologues se demandent, est-ce que le fait de dire la soupe ne suffit pas pour faire comprendre l'enfant quel est le plus important de ce qu'il est en train de son moment, c'est la soupe. C'est pas forcément de manger, mais il doit s'intéresser à la soupe. Donc il y a toute une trame dans le truc qui doit être la gestuelle de la personne quand il parle est très importante dans la communication. Vous savez, on dit toujours, c'est la première rencontre qu'on a l'impression qu'il reste établi avec les individus pendant tout le reste de notre vie. Donc là, ce que vous allez montrer de vous-même, souvent même le costume, la manière de s'habiller et tout, va donner une importance, va avoir une influence. Ça, c'est la trame de communication. Je n'ai peut-être pas insisté. Tu as peut-être raison, je n'ai pas insisté entre le 1 et le 2. Mais la trame de communication, elle est très importante de la comprendre. Donc ça, c'est les quatre éléments qui peuvent... Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. J'en cite quelques-uns comme ça, mais on n'aura pas le temps de les aborder tous. Mais on les verra au fur et à mesure. Mais elles sont dépendantes de ça. Ces quatre éléments-là, ils sont quasiment généraux. On les retrouve dans tout. Vous voyez bien, on peut les appliquer à n'importe quoi. On les retrouve dans tout, oui.
Par rapport au maniement de la langue, la syntaxe, la grammaire, par exemple, si quelqu'un veut expliquer comme le cas en France, un arabophone, par exemple, qui maîtrise mal le français, il va avoir un public francophone. S'il maîtrise mal la syntaxe, il risque d'avoir une mauvaise compréhension.
Oui, absolument. Bah, c'est tout simplement, si je vous parle de charité, il ne comprendra pas le mot charité comme vous allez le comprendre vous. Quand je suis devant un public qui est mélangé français, culture donc judéo-chrétienne et culture musulmane, mais culture, hein, je ne parle pas de pratiquant. Quand je vais utiliser, si je prends pour le parler de la sadaqa, de la zakat, le mot charité, j'utilise ce mot-là pendant mon discours. Ils comprendront tout à fait deux choses différentes. C'est-à-dire que dès que je vais dire sadaqa, zakat, tout ça, les musulmans vont comprendre que c'est une charité obligatoire, ils doivent, et eux ils vont croire que c'est un élément en plus qu'on doit apporter, que c'est pas, ça fait pas partie d'une obligation religieuse, alors que les musulmans comprendront que donc l'utilisation du mot dans un public, on doit, si on sait, de toute façon, on le sait, quelqu'un de conscient, on sait que le mot va être interprété différent parce qu'il est conscient du public auquel il parle. On doit tout de suite apporter la différenciation. On doit l'expliquer par quelques mots simples. On donne sa définition des mots. Et moi, je suis toujours pour que dans un public divers, même des musulmans, rien qu'on donne un décor à des musulmans, mais on sait qu'il y a des pratiquants, des non-pratiquants, des gens qui ont une culture avancée, d'autres qui ont juste entendu parler des choses, de donner la définition simplement du mot, ou de dire, moi, ce mot-là, voilà ce que je le sens que je lui donne. D'accord ? Et donc, il est très important, là, ça. Mais on rentrera plus en détail, inchallah, dans ces choses. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما وصلى الله وسلم على نبينا محمد